I don't know. Se déroule ici. D'abord, on poursuit la conférence de M. Larson de 60 minutes et par la suite, une période de questions de 30 minutes. Mais M. Larson déroule même de sa conférence, si c'est ça, autrement, c'est à lui de décider. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir M. Peter Larson, commissaire de Canada Star Palestine, organisation canadienne. De défense des droits de la personne se concentrant au Proche-Orient. Il a séjourné à plusieurs reprises en Israël et en Palestine au cours des 10 dernières années. Collaborateur à différents forums sur la question et professeur de l'Université Carleton dans le cadre de cours destinés aux retraités, il collabore aussi à la région au Journal de droit. Il reçoit en 2012 la détaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en reconnaissance de son travail initiatique sur les relations canado-arabes. Ce soir, M. Larson pourra certainement apporter des précisions et peut-être même des réponses aux interrogations qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui a poussé le Hamas à attaquer Israël de cette manière? Nous avons 1700 personnes, dont plus de 1000 civils. Et qu'est-ce que reste-t-il faire? De l'autre côté, qu'est-ce qu'Israël essaie de réaliser avec sa campagne de bombardement meurtrier? Quand est-ce que cela s'arrêtera? Avec vous, monsieur, monsieur Peter Larson.
Vous m'entendez bien de voir? Je suis très content de voir des visages que je reconnais plusieurs. Je ne sais pas ce qui servir pour les avoir une mauvaise mémoire ou un bon souvenir. Mais je vais vous dire des alors, ce soir, effectivement, je vais pris ce pas très de distance de la je ne sais pas c'est quoi, j'ai certainement perdu des amis. J'ai perdu des amis palestiniens à Gaza qui sont morts, la famille, une des personnes qui sont prisonniers est mort, ses parents sont prisonniers, ils sont à l'hôpital, alors qu'à l'hôpital il n'y a pas de soins médicaux, je ne sais pas où ça va aboutir. J'ai aussi perdu des amis canadiens vivants, pas comme étant de morts, mais parce que plusieurs Canadiens ont mis des vies, sauf que je ne suis pas assez vivant. Et vous allez me juger quand je fais la présentation ce soir. Il peut y avoir un document qui est plus beau. Voilà. Vous êtes là, mais pas si vous êtes là. Vous êtes là. Un topo devant le Conseil de sécurité
l'ONU, en disant que l'attente du Hamas de cette catastrophe n'a pas eu lieu dans le vide. Il y avait quelque chose de bien. Pour cela, il était attaqué carrément par l'ambassade d'Israël pour demander sa démission. Israël avait décidé d'interdire tout employé de l'ONU à l'intérieur de l'Israël, là où ils ont décidé, parce qu'ils ont accepté son décès. L'ambassade générale avait la plus énorme majorité du conseil général, de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, dans ce sens, il faut dire un peu de bonheur. On peut remonter très loin dans l'histoire. Je propose qu'un point de visite dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, On pourrait facilement remonter à la fin de la Première Guerre mondiale, mais je vais commencer en 1947-1948. Alors, après l'Holocauste, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cet énorme problème. Il y avait 6 millions de Juifs qui ont été tués en Europe, suite à des années de discrimination intérieure. Et on avait une certaine sensibilité de culpabilité, la sensation de tout, parce qu'on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas fait beaucoup pour les Juifs. En fait, même on a refusé les Juifs qui ont été éliminés tous. En 1939, c'est le fameux bateau Saint-Louis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et à la fin de la guerre, on voulait faire quelque chose pour les Juifs, mais on ne voulait pas les Juifs. On était encore très antisémites. Il y avait même un haut fonctionnaire canadien qui avait dit One is too many, un c'est faux. Et donc, le Canada avait endossé le projet sioniste. C'est-à-dire de créer un nouvel État en Palestine, un État pour les réfugiés européens. Ça, la Grande-Bretagne avait pris le contrôle de la Palestine à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était un mandat. Et donc, la Grande-Bretagne a offert une partie de la Palestine, qui n'était pas de l'heure, il a offert ça aux Juifs européens. Et le Canada, il était pour quelque chose. D'ailleurs, il y a tout ce voyage de notre premier ministre, M. Pierson, qui était ambassadeur du Canada auprès de l'ONU à l'époque. Et c'est le Canada était un des 11 pays qui a proposé ce qu'on appelle la partition de la Palestine pour en donner une petite moitié aux immigrés européens. Voilà. Alors, cette proposition, il s'est proposé par un comité de 11 États, dont le Canada, proposait un État 50% de la. On parle de la superficie. 50% un nouvel État juif, donc pour les Européens qui venaient de s'installer là. Et il y avait un certain nombre qui avaient déjà commencé à s'installer avant ça. Et il a laissé 45% pour les Palestiniens. Maintenant, il y avait un problème. Et le problème, c'était qu'il y avait déjà 1 million d'Arabes qui vivaient là. Alors, comment créer un État juif où il y avait déjà d'autres gens qui étaient juifs? D'autant plus qu'il y avait peut-être 2 millions d'immigrés juifs qui étaient venus sous le contrôle britannique des 20 années auparavant. Et il y avait 1 million d'Arabes, donc les Juifs étaient un tiers de la population. Alors comment est-ce qu'on fait un État juif avec une majorité juive quand nous sommes une minorité? Le problème. Comment le faire? Bon, il y a une possibilité, c'est celle de tuer tous les Arabes. La possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de faire venir beaucoup d'immigrés, d'autres immigrés européens. Mais ça, c'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, ce sont des bateaux, ce sont toute une organisation. Donc, il était devant le fait que la seule option réaliste, c'était de les faire, de les envoyer ailleurs, de les expulser. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, après le vote de l'ONU, il y
Ils ont commencé à expulser les Palestiniens à coups de fusil, à coups de matraque, ils ont voulu. Et il y a effectivement plusieurs massacres. Les Palestiniens ont résisté, mais ils étaient très peu équipés pour résister parce qu'ils résistaient déjà à l'occupation britannique. Et les Britanniques ont mis ça à cette interdiction totale pour les Palestiniens d'avoir des armes. Alors qu'ils donnent des armes et pour neuf, ils ont des juifs pour créer leur État. Donc c'est une bataille qui était très peu égale. Et les Palestiniens, 750 000 Palestiniens étaient expulsés dans les 7 mois qui suivent. Ça s'appelle le massacre. D'ailleurs, comme Gilles a dit, donc je propose de parler de mais si vous avez des questions au fur et à mesure, surtout si vous avez des questions de qualification, quand vous voulez lever la main, posez des questions pour qu'on soit tous à la même longueur d'onde. Si vous avez plutôt des contestations, attendez après qu'on puisse finir mon propos si vous convient. Bon, alors. Le vote, comme je l'ai expliqué, c'est le 29 novembre 1947. Et c'est ainsi dit une période de 7 mois avant la création de l'État d'Israël. Pendant ce temps-là, les forces sionistes commençaient à expulser les Palestiniens. Et comme je dis, il y avait 750 000 qui étaient expulsés. Et je ne sais pas si dernière fois que vous voyez mal la photo, c'est pas important de l'avoir invité, mais c'était le chaos. C'était un chaos qui pleut. Parce qu'il y avait la peur, il y avait des massacres. Alors, il y a un certain nombre de gens partaient au Liban, dans le nord. Ils partaient en Syrie, dans la Jordanie, dans le sud, et aussi à Gaza. Et là, on va parler de Gaza. C'est pour ça que Gaza est tellement important. Et même, il y en a qui partaient par le Russe, il y en a qui partaient vers l'intérieur, mais ceux qui étaient. Par la suite, elle est devenue la fille germanique, je ne sais pas la fille germanique. Et si tu peux revenir à un dépôt avant de vous dire quelque chose. Non? Beaucoup de gens sont partis à Gaza, et Gaza est devenu la plus grosse concentration de réfugiés palestiniens. Donc c'est très important de comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, à Gaza, presque 80% des gens qui vivent là ne sont pas de là. Ils sont des réfugiés. Les Britanniques ont dit à l'ONU qu'il allait s'en laver les mains pour mais c'est un peu. L'ONU, donc 6 mois avant ça, l'ONU a pris la vote. C'est la vote de l'Assemblée générale. La résolution 141 de l'Assemblée générale, qui effectivement autorisait, on peut dire la partition, on peut dire la confiscation d'une partie de la Palestine. Les votes de l'ONU et de l'Assemblée générale n'ont aucun pouvoir contraignant. Là, c'était juste un. Et aussi bien par les Arabes que par les Israéliens, comme étant l'accord du monde à la création de l'État d'Israël. Alors, j'ai une petite colle pour vous. Alors, selon ma présentation, comment est-ce que le Canada aurait voté? En faveur ou contre? Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez que les États-Unis ont voté? En faveur ou contre? Comme j'ai dit comme la Jordanie.
Non.
Palestine, comment est-ce que la Palestine a voté? Vous n'avez pas le droit de vote. Pas le droit de vote dans le pays qui était divisé en deux. La moitié du pays qui est venu à l'Israël. Ok, je pense qu'on est capable d'avancer. Mandat, c'est un mot poli pour une colonie. On le voit à l'époque de la décolonisation, mais en 1921, après la région qui est divisée entre la France, l'Angleterre et un petit peu de Pologne aussi. L'Angleterre avait le mandat pour la Palestine. Mais non. L'ONU, c'est pour ça, en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, avant la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de pays dans le sud. Sous l'Empire ottoman, il y avait des provinces, des pays. Alors, la piste de Jordanie n'existait pas, la Syrie n'existait pas, le Liban n'existait pas, l'Irak n'existait pas. Tout ça, c'était le fait des Européens qui ont fait des protestes. Quand on voit des lignes droites comme ça dans le monde, on sait que ça ne peut pas juste oui, beaucoup de... Comment? Ah non, le cas. Il passe de... Non. Comment? Oh, ça c'est beaucoup à faire. Ça c'est vrai, c'est comme ça, beaucoup à faire. Oui, monsieur, madame, je vous parle. Oui.
Comment est-ce que Gaza est devenu déjà une terre de refuge? Déjà à ce moment-là.
Comment est-ce que Gaza est devenu
une terre de refuge?
Une terre de refuge?
Oui, pour les Palestiniens.
Pour Gaza et le centre d'Israël, c'était comme une grenade qui a explosé, les gens qui sont courus dans tout le temps. Vers Gaza dans le sud. Et Gaza était une vieille région qui était souvent envahie, soit par les Mamelouks, soit par les Alexandres, le Grand, avec du passé, tout cette région-là. Et c'était une région assez riche en agriculturellement, parce que c'était en bois, et on recevait des eaux, des collines, de Hebron Hill. Et dans ça, ça marche plus parce qu'il y a 4 ou 6 jours là, donc il n'y a plus de gaz. Mais dans le temps, c'était connu pour ses richesses par la colonie qui est là. Ok, voilà. Voilà, donc, la proposition de l'ONU, ça, tout ça, c'est la Palestine.
la Palestine, c'était le mandat de la Palestine et tout confort de l'Italie. Alors que après la guerre, ils ont donné l'indépendance, ils ont donné la Syrie à la Palestine, mais ils ont gardé un mandat pour la Palestine. Alors, donc, ça c'est de la partie séance proposée de partir à la Palestine. La partie orange est de, la partie qui était dévouée à l'État juif. Et la partie jaune était pour le nouvel État arabe, palestinien. Vous voyez déjà, c'est drôle, hein, c'est pas double. Et c'est parce que la majorité de la population juive, de l'immigration juive, avait été installée dans la société. C'est pour ça que j'ai essayé d'organiser les concerts pour que là, on va presque une majorité juive, même dans cette région. En Argentine, il n'y avait pas de majorité juive, mais presque. Et aussi, après un certain deuxième monde, vous ne voyez pas ici, mais Jaffa, c'était la plus importante ville palestinienne, et Jaffa était aussi, Jaffa faisait partie de l'État arabe. C'est drôle, mais l'État arabe, Jaffa aussi. Pourquoi? Parce que si on avait inclus Jaffa, ça faisait trop d'Arabes dans le nouvel État juif. Dans le mandat, dans la résolution, Jaffa était exclu, mais le lendemain du vote, les forces sionistes ont commencé à expulser les Palestiniens de Jaffa, parce que pour eux c'était très important stratégiquement. Alors, qu'est-ce que la carte, est-ce que la carte est claire maintenant? Ok. Oui, oui. Non.
Moins intéressant, on a gardé le meilleur terme qu'on dit, ça c'est ça la logique. Mais pourquoi si on a mis tout ça à Israël, pour les Anglais et aussi pour les Israéliens, c'était très stratégique pour deux raisons. D'une part, il y avait une frontière avec la Jordanie du Sud, et il y avait aussi le port ici, cette année c'est la mer Rouge. Hein? Donc c'était très important politiquement de l'avoir. Maintenant, Israël a commencé à exploiter, il y avait très peu de gens qui vivaient ici. Ça, c'est un autre propos sur les besoins qui disent là. Ça, c'est une autre dénomination. Oui.
Juste un point de contexte. La France avait aussi des mandats sur le Syrie. C'est pas uniquement le
Royaume-Uni. Ah, c'est vrai. Même, comme vous dites, il y a fait une alliance entre eux pour couper le contrôle, etc. Et les Anglais, en particulier, avaient promis la Palestine aux Arabes, ils avaient promis la Palestine aux Juifs, et promis à la France qu'on va s'entendre avec vous. Donc, c'est la première fois dans l'histoire que l'Angleterre a fait un mauvais jeu. Hein. Bon. Oui. Non. Mais les Anglais voulaient.
Les Anglais voulaient partir, est-ce qu'il y avait le groupe Irgun et Kurm à ce moment-là?
Oui,
exactement. Là, Israël est un sujet. Alors, les sionistes, c'est une bonne question parce qu'on on dit que les sionistes avaient plusieurs groupes plus ou moins radicaux, n'est-ce pas? Nombre de groupes qui réclamaient non pas seulement la Palestine qu'on voit ici, mais aussi la Jordanie. Le Ramblin était de conquérir toute la région. Et quand l'ONU a voté, il y avait des groupes qui n'étaient pas d'accord. Ils disaient, non, on n'accepte pas la votation, on n'accepte pas ça, on n'accepte que la moitié de ce qu'on veut. Ben de Lyon, par contre, avait dit, oui, on accepte. En sachant très bien que la, ça, c'était un pas en avant, il faudrait faire un autre pas par la suite. OK. Suivant. Effectivement, là, c'est une série de cartes. Oui, une carte. Successive. Ici, à 47, au moment du vote, du Panamie, ça c'est le mandat palestinien, et il y avait un certain nombre de colonies juives ici. Ce sont des unités juives qui sont venues sous l'égide, c'est le contrôle britannique. À ce moment-là, en 47, ils avaient pris à peu près 7% des terres. Et ils étaient déjà 30% de la population totale. Alors, ça, c'est le vote de l'ONU. Vous voyez que ça suit plus ou moins le peuplement qui existait déjà. Donc, le vote de l'ONU avait proposé tout le plan de l'Israël, c'est pas plus. Et sur cette question que beaucoup de gens ne savent pas, le vote proposait trois éléments. Un État juif, un État arabe et Jérusalem. Mm-hmm. Jérusalem était vu comme un corpus separatum sous contrôle de l'ONU, un peu comme Berlin était à la fin de la société. Pour le reste, c'était vu comme un État très important pour les musulmans et les juifs. Donc, c'était changé. Et ça, c'est une des raisons que les sionistes forts n'étaient pas d'accord avec la proposition de l'ONU parce que nous, on veut Jérusalem, mais de l'ONU, on l'a accepté. Donc, ils l'ont accepté de fait, non, légalement, mais ils sont battus, et aussi, on voit ici, parce que j'ai parlé de Gaza. Gaza, qui était à l'origine, c'était maintenant le lendemain du vote, le lendemain du vote, les gens commençaient aussi. Il y a sur les plages de Gaza, il y a un musée. J'appelle le musée de la libération de Gaza. Il y a des panneaux en dedans où le texte lendemain du vote, ils ont commencé à expliquer les Arabes. Ils ont commencé à expliquer les terroristes, ils ont expliqué les Arabes. Et beaucoup, beaucoup de gens de Gaza sont venus ici aussi dans Gaza. Bon, alors, ça, à la fin de cette période-là, on arrivait à cette situation-là qui s'appelle avant 67. Donc, de 47 à 67, c'est plus ou moins la situation. Alors, Israël a plus tard, et la Palestine est réduite à sa ouest, c'est au lieu de 55% de territoire qui était proposé par l'ONU, ça fait donc 82%. Et les Palestiniens, eux, sont au Beyrouth, en Jordanie, en Amman, et beaucoup à Gaza. Et là, après 67, il y avait la guerre de 67, Israël a pris le contrôle de tout, sauf avec les écoles de l'Oslo, les Palestiniens contrôlent quelques parcelles plus séparées les uns des autres. Ça, c'est la situation. Même si il y a la partie actuelle, parce que c'est plus accepté maintenant, mais c'est il y a deux fois ça. OK. Et c'est une question aussi, est-ce que c'est ce qu'on va faire? OK. Oui, il y a certains voies.
C'est quoi les colons dans la figure arabe? Est-ce qu'ils sont en accepté de terre ou qu'ils sont stables?
Vous voulez répéter la question?
Est-ce que les colons dans la figure arabe ont accepté de terre ou
pas? On n'a pas mal à voir. Alors, quels sont les colons? Est-ce qu'ils ont acheté de terre ou est-ce qu'ils ont pris de terre? C'est ça la question. Ok. La réponse dépend de l'époque et de l'endroit. Par exemple, les juifs ici, c'était une société de colonisation juive, une société européenne de colonisation juive qui traversait de l'argent pour acheter des terres. Okay? Acheter des terres ici.
du point de vue des Palestiniens, c'était des colons. Hein? Ben, ils se disaient eux-mêmes colons. Quand ici, ça c'est une terre que j'avais l'entrée ici, c'était pas ici, c'était au bout du lit, vous partez. Moi je connais déjà un vieux monsieur qui m'a amené à sa maison, à Jérusalem. La maison est là, elle était trop isolée ici et tout, et moi je suis là. Alors je l'ai quitté. Et il n'a jamais pu avoir une conversation de compte. Donc, là, ici, maintenant, ce qui est une affaire, c'est que là, il y a une colonisation acharnée, à bout de vie, là, c'est un même chose qui continue. Alors, les sionistes sont vraiment déterminés à prendre le tout. Et ils veulent, et même les sionistes disent, on a eu une erreur en 1947 parce qu'on ne s'est pas débarrassé de tous les Palestiniens, parce qu'on sait que non, qui soit resté. Et si vous voulez. Parmi lesquels je peux expliquer pourquoi certains sont restés, mais les trois quarts étaient expliqués, mais les quatre sont restés. Ça va? Oui? Ok. Prochaine question. Alors, depuis le début, les Palestiniens ont résisté à la déportation, comme vous pouvez imaginer. Ils ont fait une résistance militaire, comme certains qui restent parce qu'un journaliste ne devait pas croiser la frontière par attaquer les installations militaires et scientifiques. Et ensuite, ils ont fait appel aux nations arabes. À un moment donné, les Palestiniens espéraient que Nasser, le président d'Égypte, allait les libérer. Ce n'est pas marqué. Bien sûr, ils font plein de manifestations. Ils appellent au boycott d'Israël. Vous souvenez peut-être que vous connaissez peut-être le mouvement BGS. Pour ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une pression morale et un risque de elle. Et aussi, bien sûr, les Palestiniens sont malheureusement connus pour le terrorisme. Et évidemment, ils ne peuvent pas appuyer le terrorisme. Je comprends très bien d'où ça sort avec la frustration de continuer à faire de le faire. Il y a, comme je dis, ça n'a pas marché, aucun de ces. Et l'approche qui a marché, Israël était bien trop fort, était aussi très appuyé par les États-Unis et par les pays comme le Canada. Malheureusement, selon moi, malheureusement. Les Palestiniens avaient plusieurs organisations de résistance politique, dont l'OLP, qui était l'Organisation de libération de la Palestine, c'était bien sûr Arafat, sans doute vous vous souvenez de son nom, évidemment en latin. De la Front populaire de libération de la Palestine qui était plus radicale. Sasser, un des partis politiques, il y avait le djihad islamique, et là, il y avait le Hamas. Et tout ça, c'est un background pour venir à parler du Hamas, qui sont de la sensation aujourd'hui. Alors, c'est quoi le Hamas? Le Hamas, c'est un parti politique palestinien. En arabe, le nom, c'est le mouvement de la résistance islamique. Qui se basait sur les principes justement religieux. C'était très religieux. Et c'était très social. Aider les religieux, aider les pauvres, ils impactent la population pour les membres, et ils ont distribué ça. Initialement, au début, le Hamas était encouragé par les jeunes. Parce que le Hamas était très religieux. Là, c'est la fac, c'était plus loin. C'était un mouvement laïque, donc ça tenait un peu la vis-à-vis entre les deux, ça servait les intérêts d'Israël au début.
L'objectif à Hamas, c'était de libérer toute la Palestine, y compris Israël, et établir un nouvel État basé sur le principe islamique. Ça, c'est le site Hamas, qui est le fondateur. Ça, c'est il était à moitié paralysé, et il est bien dans la question. Alors, il y avait un premier manifeste de Hamas, en 88, et après, lutte armée contre le Fatah, et ils ont aussi comporté des déclarations que je pense que tout le monde ici reconnaît comme exactement indiquées. L'article 13 de lutte armée, il n'y a pas de solution de la question palestinienne qui se passe par la djihad, la lutte. Les initiatives, les conférences internationales sont des perdants. Et je pense que plus de leur expérience, je comprends pourquoi ils viennent de cette conclusion. Par contre, l'article 22 sur le pouvoir mondial du Tif est déprimant et certainement rigolé un petit peu. Le Tif était derrière la révolution française, la révolution communiste, avec leur argent, ils ont formé des sociétés secrètes telles que le Club Rotary, l'Union et d'autres dans différentes parties du monde dans le but de réaliser les intérêts communs. Ils n'ont pas mentionné les sociétés Saint-Jean-Baptiste, donc je pense que ça peut être la force. OK. Mais en 2005, un changement de cap, au moins dans le stratégie, ils ont décidé de ne pas seulement se cantonner sur les lutte armée, ils se présentaient aux élections. George Bush avait proposé, insisté, d'avoir la démocratie, d'avoir des élections. Et Hamas a dit OK, on sort de ça. Il savait que Abbas, le remplaçant de Arafat, était très nerveux, il était venu sauver les attentes américains corrompus, alors que eux, à l'époque, étaient comme étant très durs, fermes, mais très propres. Moi, je connais, par exemple, deux Palestiniens amis en 2005, qui m'ont dit qu'ils ont voté Hamas, ils ne sont pas du tout d'accord avec les idées religieuses, mais. Alors, ce projet de réforme. Alors, ce programme serait intéressant, il y aurait des observateurs internationaux, y compris, comment il s'appelle, le NPD, Bouloré. Bouloré, Bouloré était observateur. Alors, c'était déclaré comme une élection très propre. Surprise! Le Paris, où Hamas a gagné au lendemain. On voit ici la carte, une préparation de Gaza. Ça, c'est Hamas a gagné ici, à la grande surprise de l'Israël, à la grande surprise des États-Unis. Et les 87 observateurs auraient dit que l'élection était libre et équitable. Alors, oui.
Ils ont gagné en Cisjordanie aussi.
Oui. Ils ont gagné partout.
Non, pas en Cisjordanie.
C'est la majorité palestinienne qui a gagné.
Non, excuse-moi. Je vais monter le siège. La aujourd'hui, c'est ça. Ils ont été suffisamment sur l'Angela. Je
vais aborder la discussion avec vous tout à l'heure, mais
moi je sais quand, je vais vous montrer les photos, que Hamas avait gagné dans une de ces constructions-là, et là, et la autorité palestinienne, c'est à l'époque, c'était Fatah, autorité palestinienne, qui avait presque beaucoup moins de voix. Ce qui est arrivé, c'est que Bush et Israël ont refusé d'accepter le résultat de l'élection. Or, il y avait une élection un an avant pour la présidence. C'est un peu le système français. Les élections législatives sont séparées des élections pour le présidentiel. Ça arrive en France, et quoi, c'est la cohabitation. François Mitterrand avait la cohabitation. Il était socialiste, mais la majorité ne le sait pas. Maintenant, Hamas avait gagné les élections présidentielles. Vous avez raison. Hamas avait gagné les élections
législative, n'est-ce pas?
Et
ce que les Américains ont fait, on ignore, on laisse de côté le résultat des élections législatives. Depuis ce temps-là, Abbas continue à gérer comme si le comme président, sans la législation. Alors, ça, c'est l'Assemblée, si les gens avaient été permis de saisir. Ça, c'est Hamas. Ça, c'est, quand c'était le Qatar ou le palestinien. Mais ça n'a jamais été convoqué. Alors, il n'y a pas l'idée de nouvelles élections. Alors, Abbas continue à gérer avec la fille d'Israël, la fille des Américains, au grand dam des élections législatives. Et même, les candidats, je pourrais pas vous dire tous, il y a beaucoup de candidats là, avec une meilleure vision. En tant que type d'organisme. Oui. L'Assemblée nationale s'est convoquée, de nombreux candidats de Hamas ont été arrêtés, il y a un certain nombre qui sont déjà, comme toujours, en prison. Hamas est interdit, il n'y a pas de direction. Abbas n'a pas été en mesure de prendre le contrôle à Gaza. Il a réussi à prendre le contrôle, continuer sa mainmise sur le Ouest-Est. Il n'a pas réussi à contrôler le Gaza. Du coup, Abbas contrôle le Cisjordanie et Hamas contrôle Gaza. C'est pour ça qu'on a cette division maintenant. Ok? Et il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Et si vous posez des questions, je peux vous parler ma théorie pourquoi il n'y a plus d'élection. Bon. Alors, en 2017, l'Arabe est venu voir que ça a changé. Son manifeste, sa charte, le projet de l'année, ils ont fait une révision de la charte. Entre autres, ils ont éliminé ce langage un peu caricatural et antisémite qu'ils avaient. Et il spécifie que son combat n'est pas contre les juifs comme tel, mais contre les sionistes qui occupent le terre. Et aussi, ils mettent un peu d'eau dans leur. Si j'ai dit 20 islamistes, c'est pas. Ils ont diminué un peu la paix d'Israël. Et Israël, bien sûr, a dit ça. C'est pas sérieux, mais Patrick Martin, qui était journaliste communautaire à l'époque, il dit qu'il trouve que c'est un pas important et que le Canada devrait engager une discussion avec Hamas sur l'Antique. Harper n'a pas voulu, il connaissait un peu la portée, il n'y avait pas plus d'environ. C'est complètement exclu de toute conversation sur l'avenir de la Palestine. Ok? Maintenant, Hamas, du coup, devient un peu. Le gouvernement de Gaza. Il gouverne un territoire qui est petit, c'est 40 km long, 5 km de large, c'est peut-être 15% de la superficie de la ville d'Ottawa. Ottawa, maintenant, c'est très grand, c'est 365 km. 2 millions de personnes. Et c'est une véritable prison à ciel ouvert. C'est entouré de murs, il y a des caméras avec des tailleuses automatiques. Il y a quelqu'un dans un bâtiment, il y avait des caméras, il peut surveiller ce qui vient trop près de murs. Le mur était impénétrable, ou au moins c'est ça que pensaient les Israéliens jusqu'à 7 octobre du Soudan. Et sa peau, le mur martial sur les 300 pièces. Et presque tous sont des réfugiés. Donc ce ne sont pas des barrières, ce sont des réfugiés. Ils n'ont qu'un souhait, c'est de retourner d'où ils étaient expulsés à travers leurs parents ou même leurs grands-parents étaient expulsés. Du coup, ils sont apatrides. Ils n'ont pas de passeport.
Ils sont, même quand des fois ils arrivent à voyager à ailleurs, ils ont un document spécial de voyage, mais c'est pas un passeport comme nous. Nous, on prend le voyage avec un passeport comme étant automatique. Et on sait que si on a des problèmes à notre pays quelconque, on peut faire appel au consulat canadien pour nous aider. Qui concerne bien que mal, c'est un peu pas un genre de situation, mais au moins on a ça, c'est important. Et 40% des sont les jeunes, donc en fait 25 ans.
Le taux d'inscription, de l'autorisation,
est-ce que je, souvent les gens sont surpris de savoir qu'il y a 6 universités à Gaza. Et de grandes universités, je ne parle pas de tout ça, on parle de temps, de l'unité, de toutes ces choses-là. Mais ils vont beau avoir la formation. Scolaire, il n'y a pas d'emploi. Donc, il ne peut pas devenir, il ne peut pas sortir, il n'y a pas d'emploi, et il vivrait 300 piastres par mois. Oui, monsieur.
Est-ce que l'université prend
l'œil? Bon. Ils sont juste d'en haut parce qu'il ne pourrait pas les aller, mais ils sont. Je ne saurais pas vous dire. Je dis que non parce que c'est. Une, la plus grosse, c'est l'université islamique de Gaza. Mais on peut imaginer. Ça veut dire qu'il y a enseigne le Torah ou du Canada. Non, non, moi je prends la frappe de l'université anglaise à l'université islamique de Gaza. J'ai un peu de vraie université avec les facultés du Canada. Je n'ai jamais demandé comme ça. Et
comment sont financés ces universités?
Il y a deux principes pour les canaux de financement. Le Qatar, un certain nombre de pays arabes qui donnent des contributions. Mais aussi, il y a beaucoup à travers l'ONU. Parce que l'ONU, je ne pense pas que l'ONU finance directement les universités, mais l'ONU finance les écoles. Les écoles pour les réfugiés. Pas pour les non-réfugiés, parce que 20% de la population des Gaza n'a pas réfugié, donc eux, ils n'ont pas de subvention de l'ONU, mais les gens qui sont réfugiés aussi. Et quand ils financent les écoles, c'est leur payer les professeurs. Les professeurs, eux, ont de l'argent, finalement. Sans doute, ça devient une sorte de financement pour les universités, parce que les jeunes ont un université et ainsi de suite. Sinon? Bon, alors la structure est la force vraiment. Ils ont des Hamas et des membres partout dans la société palestinienne, dans les Cisjordanie, dans Israël même, à Jérusalem, dans Gaza. Et même dans les camps de réfugiés, c'est un parti politique, un courant politique. Il est devenu la plus puissante organisation de résistance palestinienne. C'était vu comme ça par les Palestiniens. Même si les gens ne sont pas tellement d'accord avec ce que je veux dire, ils voient que Abbas n'est pas en mesure d'empêcher la croissance de l'économie. Hein. Alors, Abbas présent, pouvoir se battre contre Israël. Il y a beaucoup de gens qui s'assurent là-dessus. On ne connaît pas le succès interne ou le nombre de membres, mais on estime qu'il y a peut-être entre 6 000 et 15 000 militaires, politiques. Et là, les politiques forment le gouvernement de Gaza et ça fournit des services étatiques normaux comme l'éducation, santé et ainsi. Alors, je fais un. On a tout à l'heure, c'est un peu l'eau, un peu plus, il y a un aspect analogue que vous comprenez. Hamas est à la fois un gouvernement, imaginons le parc où le pays qui est au pouvoir au Québec, où les gens se plaignent ou non des égouts d'éducation, parce qu'ils doivent fournir les services. C'est une organisation politique. Avec un objectif, et l'objectif c'est la libération de la Palestine, n'est-ce pas? Et aussi c'est une idée de récupérer notre pays. Je pense que c'est normal, je pense qu'on peut dire que s'il y avait un peu ces trois éléments-là, il y avait un aspect de gouvernement, un aspect politique, mais aussi un aspect d'inspiration. C'est beaucoup de gens, même s'ils n'étaient pas membres du parti, ils pouvaient se reconnaître, n'est-ce pas? Hamas est beaucoup comme ça. Okay. Alors, je vais vous montrer ici, c'est pas important ici, des drapeaux verts de Hamas sont interdits partout dans la ville, lors des grosses manifestations qui va encore les drapeaux, et on va faire vite avant que la police arrive, parce que si tu ne sais pas ce mot de carte.
Oui. Est-ce que depuis l'édition sur le temps, vraiment, un certain des liens formels avec les frères musulmans que le Hezbollah?
Alors, quels sont les liens actuels entre Hamas et le. Actuellement, depuis le 14, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous donner une réponse très. Je pense qu'ils ont des relations. Hamas est des représentants à Istanbul, en Turquie, dans d'autres pays arabes. Ils ont des contacts avec Hamas, avec les gens qui sont mais ils ne sont pas tous sur la même. Même récemment, le président Ebola, avec un nouveau discours il y a 10 jours, à peu près, disant que c'est Hamas qui a décidé de faire cette sortie. Nous, on n'était pas convités, on n'a pas de gens. Et quand ils ne nous attaquent pas, on ne va pas s'en démarrer. Donc, il y a certaines. Je pense que les gens de Hamas n'étaient pas tellement contents, mais voilà.
Musulmans avec Hamas et d'utiliser le mouvement national. C'est bien la différence qui s'occupait de le problème des Palestiniens en particulier. Donc, quelles sont les relations? Ils ont senti des relations et je ne sais pas si c'est pas dans les mêmes secteurs.
Mais qui est là pour Hamas?
Comment?
Qui est là pour Hamas?
Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a un certain afflux qui vient de Qatar, mais beaucoup de gens, et au moins à Gaza, alors c'est partout, les profs à l'université, les gens qui travaillent, les médecins, beaucoup donnent de l'argent à Hamas, parce qu'ils voient Hamas comme leur défenseur. D'accord, je pense qu'on fait beaucoup de tapas sur la collection de Hamas, mais quand je suis là, quand j'étais là, ce n'était pas le sentiment que j'ai eu. Les gens voyaient Hamas, ce qu'ils n'aimaient pas dans Hamas, c'était l'attitude de vie, c'était pas parce qu'ils connaissent l'argent pour avoir des avocats ou autre.
On n'entend pas.
Excusez-moi, je n'ai pas manqué de l'instant, madame a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour Hamas, et moi, mon impression, c'est que les gens de Hamas ne gagnent pas beaucoup. Donc, je sais que les profs, on m'a dit, il y a plusieurs profs à l'université islamique de Gaza, qui eux travaillaient volontairement à moitié cela. C'était notre éducation. Deux personnes auxquelles je pense qu'ils sont morts. Bon, alors en 2018, Hamas a fait une autre tentative, que c'était la dame Mahmoud de Retour, le Great Marital Britain. C'était une désobéissance civile massive, comme les élections ont été. Des centaines de milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, ont apprécié à la frontière en réclamant le droit de retour. Ils avaient l'idée que Israël n'oserait pas à Syrie. Et que c'est un appel à l'Occident, un appel au secours à l'Occident. Donc, ça a raté. Les Israéliens étaient très d'accord, très prêts à l'Éthiopie, donc les deux temps. J'étais là. J'ai passé une semaine là. Ils ont tué les deux temps, ils ont blessé plus de 20 000 personnes. Et les pays occidentaux ont plus ou moins. La seule fois que Trudeau est intervenu au Pakistan, c'est quand un docteur canadien avait été blessé
son nom exact pour Christ, mais Charles Trudani, le docteur. Le docteur de Canada a pas ce groupe Canada. Il y a un appel à l'international pour faire une enquête d'ici, et le Canada a voté contre que l'enquête se porte.
Alors, ça c'est vu du côté israélien, parce que le mur est un mur qui a gardé.
Il court à la côtière, il court un petit peu vers le Rennes, le Rennes un peu comme un profondeur. Et neuf fois c'est dit, c'est dit. Mais une fois c'est dit, c'est comme ça. Donc je vais faire ça avec le voile de souvent le gaz d'atmosphère, mais moi je reste ici, je n'ai pas de raison, c'est là pour voir, pas pour faire. Sinon, tout ça là-dedans. Tout ça, pour essayer de vous expliquer comment je vois le dilemme stratégique de Hamas. C'est mon dernier diapo. Les hommes, les femmes et les enfants qui vivent à Gaza ont besoin d'une solution. Ils veulent retourner à leur terre. Ils veulent la terre d'hypocrite, ils veulent la terre de vie normale. Ils voient, quand ils montrent les anciens. Blanc appartement à Gaza, tu peux regarder par le sud. Tu vois, tu peux voir les terres de ton grand-père. Ils ont travaillé pour très bientôt. Et quand tu dis 600 emplois, 300 places de mois, eux, ils vivent dans des citoyens, ils s'amusent, ça t'arrange, ça t'arrange. Alors, les conditions à Gaza, ça drive dans les années, à même en 2021, l'ONU avait dit qu'en 2022, les conditions seraient invivables. Nous, on attend 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire eau non potable. Ça veut dire que les versements d'eau usée qui ne sont pas traités. La plage qui est polluée. Ça veut dire l'électricité qui est contrôlée par l'intelligence. On a dit, plus une fois, je revenais à mon hôtel. Avec mon téléphone de la lumière, c'est bon, parce que les trains ne sont pas très. Non, pas seulement les trains, c'est pas smooth, parce qu'il n'y a pas de moyens à l'entretenir. Et en crise sanitaire, il y a beaucoup plus de maladies de cette sorte que les gens qui viennent, des maladies psychologiques. Et moi, je parle des psychologues et des psychiatres, hein, c'est fou, hein. Alors, quand Nathanaël dit que les gens de Hamas sont des animaux, on dit ben, qui est des animaux comme ça? Comment est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas des animaux? Alors, parce que quand ils ne sont pas seulement à Gaza, parce qu'ils organisent les colonies israéliennes continuent de croître, Hamas ne peut y faire rien, Israël semble. Le monde semble placer le Palestinien ferme. Alors, ils ont trouvé qu'il faut une solution démocratique, quand on fait un droit, ça comporte. Il n'y a pas de solution pacifique, quand on fait une manifestation pacifique, on se fait massacrer. Alors quoi? Alors quoi? Est-ce qu'on va mourir à cette situation? Il y a, jusqu'à là, il y a 14 000 personnes tuées par les bombardements israéliens. C'est terrible. Alors, chaque année, il y a 10 000 qui meurent pour des maladies qui sont préventives. Hein? Donc, c'est terrible que ça arrive tout d'un coup, mais c'est la continuation. Alors voilà, Hamas a voulu trouver une façon d'attirer l'attention sur le monde. Pour que le problème soit adressé aussi au niveau supérieur que par le monde international. Alors, ça, c'est la fin de ma présentation. Je vais essayer de prendre une question.
Alors, les appels pieux sont faits pour enlever la solution des deux États par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la question est à votre esprit, je pense, la solution des deux États. Je vais répondre en deux temps. Je pense que l'Israël n'a jamais décidé de faire un référendum. C'est très bien de faire un. Mais ça passe politiquement, internationalement, quand on est pour une solution à deux États. Donc, on continue à négocier, on continue à prendre des guerres pendant qu'on est ici. Et je pense que pour les gouvernements internationaux, comme Canada, une solution à deux États, ça semble juste. Ensemble. Donc ça passe politiquement. Et si on n'a pas trop de frais, ça passe politiquement. Mais je ne pense pas que c'était jamais le projet du verre. Deuxième aspect, même si le verre avait été exact, même si le verre avait été d'accord, et il y avait des États-Unis qui étaient d'accord, je ne pense pas que ça allait apporter une solution pour les trois quarts des Palestiniens. La solution à deux États aurait peut-être pu marcher si c'était fait que, franchement, il peut créer une table, c'est n'importe quel cas. Voilà. Ok, ça. Si c'était vrai, que la majorité des populations vivaient ici, donc il y avait une zone israélienne et une zone palestinienne, on pourrait imaginer une solution à deux États. Même si cette zone-là est 22% de l'affaire originaire, donc c'est un jour, il est possible. Et c'est peut-être seulement le quart de la population palestinienne. Le cas, il y a des gens à Gaza, il y a des gens qui vivent dans l'Israël, et en plus, il y a 7 millions de Palestiniens réfugiés en Syrie, en Jordanie et en Liban. Donc, la clé de ceux qui mettent de l'avant la solution de deux États, on laisse de côté tous les autres. Donc, les autres, c'est pas bon, ils sont. Non, je ne pense pas que ça va se marcher. Alors, n'importe quel Palestinien qui a signé l'accord pour les États, il va se faire exécuter. On pourrait créer un deal, mais ça pourrait pas marcher. Selon moi. Pour ça, beaucoup plus radical que ça, selon moi. Il y avait monsieur.
Les accords de Sion, on voit de quoi et pourquoi
ça n'a pas d'accord. Les accords d'entre eux, c'était une façon de tenter de formaliser cette solution de l'État. Beaucoup de Palestiniens étaient contre, mais certains Palestiniens disaient au moins on prend ça et on peut peut-être aller davantage, parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient d'abord accepté, au lieu d'être un point de départ, c'est un point de recul. Et ça, c'est pour ça que finalement, je ne sais pas là où les gens existent, sinon ça ne marche pas.
De quoi l'accord est
porté
sur quoi?
Le plus ou moins, en divisant en trois zones différentes, et on dit aux Palestiniens, vous allez voir maintenant, vous irez de zone A. C'est la zone B, on est tous les deux en Israël. Tout ça, c'est surtout occupation israélienne, n'est-ce pas? L'idée, entre autres, c'était de diviser ça en trois zones différentes. Une zone qui était sous contrôle palestinien, une autre zone qui était sous contrôle palestinien, israélien et une zone mutilée. Et l'idée, c'était, pour dans 5 ans, ça allait permettre que le palestinien est. À étendre le contrôle de toutes les zones. En fait, c'est l'inverse qui s'appelle le zone. Les zones seules qui étaient sous contrôle de toutes les zones ont commencé à partir des colonies. Donc, pour les États-Unis, pour le cas presque consensus des États-Unis, c'est que c'est
Monsieur, je peux savoir à l'intérieur de Gaza, l'autorité, c'est l'autorité de Hamas. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est la police, c'est tous les services municipaux.
Voilà.
Mais comment est-ce que ça se comporte? Est-ce que c'est un État de droit, ou est-ce que c'est une régime qui fait taire, ou le, ceux qui se lèvent dans le faire, est-ce qu'ils ont peur de parler haute voix, ou dans mon opinion?
Je vais vous raconter un anecdote du tout. J'étais, une chaque fois que j'étais là, j'étais invité par un église, j'étais chrétien à Gaza. J'étais invité par un église, j'ai donné des cours d'anglais pendant une journée avec une jeune femme. Et après, il y avait une réunion de plusieurs personnes, des chrétiens. Il y avait un gros débat. Je n'ai pas compris de ce que je disais, c'est un arabe, je ne parle pas d'arabe. Et il y avait un jeune homme qui était un peu de mon sexe, mon interlocuteur. Même on interprète dans le sens culturel comme dans le sens linguistique. De quoi il parlerait? Il dit, trois personnes, vous verrez, il était vraiment.
On n'entend pas.
Les trois gens qui étaient à côté étaient avec Fatah, les autres étaient avec Hamas, et ils étaient très très mécontents avec quelque chose que le gouvernement Hamas avait fait. Donc, des tours, des mois. Alors, moi, j'ai dit à mon ami, à ma copine, j'ai dit, mais je pensais que c'était difficile, c'était la race. Il m'a répondu comme ça, je ne sais pas, il vit ici. Alors que moi, je pensais que c'était un juste, dans une dictature, c'est une juste pauvre. Mais non, je ne pense pas à moi, ce truc, quand je montre, quand que j'étais là, je peux laisser sa porte ouverte. Hein? Il y avait une moralité stricte. Et sans doute, il y avait des. Je n'ai pas dit, après tout, j'allais venir aller voir une prison, ou aller voir un cours pour savoir, je n'ai pas de choses personnelles pour apporter ça. Mais j'ai l'impression que, non, c'est écrit, mais ce n'est pas une dictature féroce comme on le présente souvent.
Pourtant, je n'ai pas d'élection depuis 18 ans.
Voilà, mais Anna, c'était pour les élections. Vous savez?
Oui.
Avant, c'est le reste qui a eu une élection, il y avait une élection du tout. Quand il y avait une élection il y a 3 ans, quelque chose comme ça, la menace a annulé. La menace a annulé. Donc, oui.
On a fait une soirée de négociation où le Qatar est le médiateur en quelque sorte entre Hamas et Israël.
Ouais.
Au sujet, j'aimerais que vous nous parliez peut-être au sujet de. J'ai entendu dire que les prisonniers politiques sont évidemment au centre, à part évidemment les otages, oui, mais les prisonniers politiques sont au centre de ces négociations-là. Je voudrais vous parler de comment on vit là-bas en Cisjordanie et à Gaza avant le 7 octobre par rapport à ce qu'il apprend de mettre en prison, comment la vie était une horreur pour les gens qui pouvaient à n'importe quel moment se arrêter, torturer. Et combien de prisonniers y a-t-il dans ces prisons-là?
Ok, donc, vous avez entendu une question d'ailleurs. Je suis loin d'être un expert là-dessus, mais je pense connaître là-dessus. On dit qu'il y a 4000 prisonniers dans les prisons. Ils ont plus de centaines de jeunes personnes.